Bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je reçois un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Cette saison, je te propose aussi un épisode bonus chaque vendredi. Il sera composé soit d'une parole d'expert sur le sujet abordé le mardi, soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. Il y a quelque temps, j'ai eu la chance de faire la connaissance de Vanessa, une femme assez incroyable au parcours qui force le respect. Depuis toujours, elle sait qu'elle sera maman, c'est une évidence. Mais si elle est avec Pierre, son amoureux, depuis le lycée, pas question de se précipiter. Surtout que Pierre a une passion, la mer et la voile, qu'il rêve de transformer en métier et qui l'entraîne en Bretagne, loin de sa lilloise d'adoption. Et puis un jour c'est décidé, il se lance dans l'aventure de la maternité. Après une grossesse parfaite, c'est à la naissance de Maëlle que les choses se compliquent. Les médecins lui découvrent une malformation cardiaque, un CIV, qui l'amène à une hospitalisation à 2 semaines de vie, puis à une chirurgie cardiaque à 2 mois. L'opération se passe à merveille, le cœur de Maëlle guérit, mais la petite fille n'évolue pas comme les autres bébés. Dès lors, les rendez-vous médicaux s'enchaînent, mais aucun diagnostic n'est posé. Pourtant, Maëlle présente des retards moteurs et mentaux importants, qui demandent une prise en charge plutôt lourde. Mais il n'y a pas de nom pour ce qu'elle a. Dans cet épisode, Vanessa nous raconte sans filtre son quotidien de maman solo d'une enfant différente. Un témoignage important pour enfin parler de handicap, de ce qui se cache derrière ce mot, et de ses parents qui vivent une parentalité bien loin de ce qu'ils avaient imaginé. Tu pensais être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Vanessa.
Bonjour.
Bienvenue sur Prenons un café. Je suis ravie de te recevoir.
Merci à toi Élise.
On a l'occasion d'échanger déjà parce qu'on habite plus ou moins dans la même ville,
oui.
Donc c'est chouette.
Ouais.
Et aussi parce que tu m'as contactée pour me raconter ton histoire. Et quand je l'ai entendue, parce que je l'ai entendue, j'ai pas hésité une seule seconde et j'ai eu envie de te recevoir à mon micro. Est-ce que, avant de commencer, tu peux nous dire un peu qui tu es, s'il te plaît ?
Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Vanessa, je suis lilloise, je suis âgée de 36 ans et je suis maman. Alors, j'ai tendance à dire que je suis une maman pas comme les autres, puisque je suis maman d'une petite fille qui s'appelle Maëlle, qui a eu 6 ans en janvier, qui est handicapée. J'ai aucun mal à dire qu'elle est handicapée, je ne dis pas qu'elle est porteuse d'un handicap, elle est handicapée parce que... C'est comme ça, c'est le terme que la langue française a choisi, donc je l'utilise, il n'y a pas de souci, ce n'est pas une insulte. Et donc Maëlle, donc à 6 ans, dans sa tête, je pense qu'elle a plus 18 mois, voilà, grand max. Elle commence à marcher, elle fait quelques petits pas, un peu hésitant, mais elle commence tout de même à marcher. Elle ne s'exprime pas, donc dans le monde du handicap, on dit que c'est une enfant qui est non-verbale. Alors elle s'exprime à sa façon, mais pas avec des mots. Donc elle sait très bien se faire comprendre. J'ai découvert le handicap de Maëlle au fur et à mesure. Ce n'était pas connu lors de ma grossesse, donc je n'ai pas choisi d'être maman d'une petite fille handicapée, ce qui n'est pas le cas de tous les parents. Je n'ai pas fait ce choix, c'est imposé.
Ouais.
Et donc on a découvert au fur et à mesure le handicap de Maëlle.
On va en revenir à ça. Je vais te poser la question que je pose toujours en commençant en prenant un café. Est-ce que Vanessa, tu as toujours désiré être maman ?
Oui, toujours. J'ai toujours voulu être maman et j'ai très vite été persuadée que je serais totalement accomplie que le jour où je serais maman.
Ah ouais ?
Ouais.
C'était au fond de toi comme ça ?
Ah oui, j'ai toujours... je pense que ma mère me l'a souvent dit, mais bon, j'ai un frère qui n'est pas tellement plus jeune que moi. Nous n'avons que 2 ans d'écart, donc ce n'est pas énorme. Hein. Mais même avec lui, j'ai toujours été assez maternelle. Parce que quand il est entré à l'école primaire, donc moi j'étais en CE2 et donc lui en CP, mon frère traversait la cour pour que je vienne lui faire les lacets, donc je lui faisais ses lacets. Enfin voilà, je faisais toujours très attention à lui. Et sa maîtresse un jour est venue me voir en m'expliquant qu'il fallait que je le laisse se débrouiller tout seul, qu'il fallait qu'il soit autonome. Je l'ai super mal pris. je me suis mise à pleurer. Je m'en souviendrai toujours de cette scène parce que je comprenais pas. C'était normal. Donc voilà, j'ai toujours été assez maternelle, même avec mes cousines. Je me suis toujours imaginée maman de plusieurs enfants quand j'étais plus petite. J'ai toujours eu envie d'être maman. Et puis plus j'ai grandi, plus ce besoin était presque pressant en fait, mais vraiment j'aurais été malheureuse si j'avais pas pu être maman, je pense.
Ouais.
Vraiment, ouais.
Et comment alors elle est venue cette maternité jusqu'à toi ? Et comment ça s'est passé ? Est-ce que tu as rencontré quelqu'un qui a été à un moment l'évidence ? Comment ça se passe tout ça ?
Alors j'ai une histoire, j'allais dire particulière, non, mais Je suis avec le papa de Maëlle depuis, ça fera 20 ans cette année. Donc c'est mon amour de lycée en fait.
C'est fou.
Voilà, ouais, j'avais 16 ans, il en avait 17 et voilà. Donc c'est pas la rencontre d'un homme qui a fait que, puisque c'est mon premier amour. Donc j'ai toujours été avec Pierre. J'ai toujours voulu être maman, mais bon, comme on était quand même très jeunes, voilà. Puis bon, chacun a fait ses études, sa vie. Pierre, lui, en revanche, n'était pas du tout pressé d'être papa. C'était même pas un besoin ni vraiment une envie. Il savait que pour moi c'était important, mais en revanche, lui, il n'avait pas cette envie comme moi je pouvais l'avoir. Et puis bon, quand on voit la trentaine arriver, on commence à se poser la question. Donc on en a parlé. Pour lui, c'était plus compliqué parce que Pierre, il est... Autant j'ai une petite fille pas comme les autres, mais j'ai aussi un mari pas comme les autres. C'est-à-dire que Pierre, il a un travail à Lille. Il est prévisionniste à Météo France. Mais en parallèle, on ne vit pas ensemble depuis quelques années.
Ok.
On a une longue histoire. Mais surtout parce que Pierre est skipper le reste du temps. Donc il vit à Lorient parce que son bateau est là-bas, qu'il s'entraîne là-bas. Donc Pierre est skipper et il fait des transats en solitaire. Donc voilà. Donc Pierre, il a toujours eu beaucoup de rêves. Il a une vraie passion qui est la voile. Donc il avait peur que le fait d'avoir un enfant, ça freine complètement ses rêves et qu'il n'arrive pas à les réaliser. Parce qu'à 30 ans, il n'avait pas encore commencé. Il avait juste l'objectif de faire construire un bateau. Et puis bon, voilà. En fait, Maëlle s'est invitée toute seule.
Ah, elle voilà. A demandé l'autorisation.
Non. J'aime pas le terme, mais c'était un accident.
Oui. Et quand un bébé surprise.
Voilà, c'est ça. Et quand je l'ai appris, je vais être honnête, je vais être transparente jusqu'au bout. Je me suis mise à pleurer quand j'ai vu que j'étais enceinte parce que je me suis vraiment mise à pleurer parce que je me suis dit, mais Pierre, il va jamais vouloir, en fait, parce que on a eu des discussions qui n'étaient pas toujours faciles à ce sujet et j'avais très peur de ses réactions. Et puis en fait, quand je lui ai annoncé, il était très heureux. Bon, après, des petits moments de doute quand même pendant la grossesse, je vais pas mentir, c'est pas non plus un conte de fées, pas du tout. Mais bon, pour autant, c'est un très bon papa, donc c'est un papa qui n'est pas là quotidiennement, c'est un papa qui est pas comme les autres, voilà, comme Maëlle n'est pas comme les autres. Donc on a une famille un peu spécial.
Ouais, mais c'est intéressant aussi d'avoir cet aspect au-delà de Maëlle et au-delà de toutes ses particularités finalement, d'avoir cette configuration. C'est intéressant aussi de le faire entendre, dire qu'en fait que c'est possible qu'on peut être une famille sans être ensemble 24 heures sur 24.
Ouais, ouais.
Et c'est chouette aussi de le dire, tu vois.
Et puis qu'on peut réaliser ses rêves aussi.
Oui, voilà. Que l'un n'empêche pas l'autre, en fait.
C'est ça, tout à fait.
Quand tout le monde est d'accord.
Voilà, c'est
et
ça.
Et quand tout le monde accepte la situation, que ce soit pas subi. Voilà. Non, mais voilà, après, il faut être aussi clair avec ça, c'est que c'est pas si facile que
non,
ça, en fait.
C'est
des choix. C'est des vrais choix.
Voilà, c'est ça. Et en fait, Pierre, du coup, il a lancé son projet en 2016, donc l'année où Maëlle est née. Et quand on a commencé à se rendre compte que ça devenait compliqué par rapport à Maëlle, qu'il y avait des choses, on en reparlera, mais il m'a dit à un moment, peut-être qu'il faut que j'arrête. Et à ce moment-là, j'ai dit non, en fait, c'est hors de question. Tu vas jusqu'au bout. Et puis bon, l'année dernière, il a fait une transatlantique en solitaire et il a gagné. Voilà.
C'est
et là, il se lance dans d'autres projets et je le soutiens à fond. Je suis sa plus grande fan. Je suis extrêmement fière de lui, même si ça rend mon quotidien compliqué. Je vais pas le mentir. Ouais. Moi, je suis pas du Nord. Donc, je suis toute seule ici. J'ai pas de famille. Moi, je suis venue à Lille pour suivre Pierre à la base. Puis maintenant, lui, il est en Bretagne. Donc, ça fait 10 ans que je suis à Lille. Hein. Mais voilà, c'est pas toujours évident d'élever une petite fille seule déjà et une petite fille extraordinaire. Ça l'est encore moins, je ne vais pas mentir. Mais pour autant, jamais je lui demanderai de renoncer à son projet, à sa passion, parce que je l'aime comme ça.
Ben oui.
Voilà.
Et puis surtout, si tu l'as vraiment toujours connu comme ça, pour le coup.
Oui, voilà.
Vous avez grandi ensemble, quoi.
Oui, c'est ça, tout à fait. On a grandi ensemble. Ouais.
Et donc, cette petite Maëlle s'invite par surprise. Comment se passe la grossesse?
Super. J'ai eu la chance, mais vraiment la chance, d'avoir une grossesse parfaite. Je n'ai pas été malade une seule fois, donc je sais que je vais faire des jalouses.
Ah, mais moi non plus.
Voilà. Et c'est vrai que c'est un vrai bonheur, en fait. Je n'ai pas eu de nausée. Peut-être une fois, j'ai été nauséeuse. Voilà, je pense que j'ai dû vomir un matin, et encore. Donc non, franchement, une grossesse parfaite. Alors après, maintenant, avec du recul, et en voyant l'expérience de mes amis, je me rends compte que, et parce que les médecins ont posé des questions, parce que les médecins, quand il y a eu plus de problèmes, m'ont dit, mais est-ce qu'elle bougeait normalement? Mais comment une maman, enfin une femme
ça
qui attend
quoi,
son...
bouger normalement?
Quand c'est son premier enfant, comment est-ce qu'on peut dire que le bébé bouge normalement? Moi, je dis, oui, parce que Maëlle, elle bougeait tous les jours, il n'y avait pas de soucis, mais c'est vrai que la nuit, je dormais extrêmement bien, jusqu'à la fin, jusqu'au terme. Je passais des nuits extraordinaires, parce que la nuit, elle ne bougeait pas.
Ah oui, c'était calme, quoi.
C'était plus que calme. Moi, j'ai jamais eu d'aigreur d'estomac parce qu'elle m'a jamais mis de coup de pied dans l'estomac. Elle bougeait, j'avais des petits coups de pied, mais ça avait rien de. j'ai eu des problèmes avec ma vessie. Et en fait, avec le recul, je me rends compte qu'elle bougeait pas normalement. Ouais. Mais moi, j'étais... comment on peut le savoir quand on est... quand on attend son premier enfant, c'est impossible, quoi.
On te pose la question, est-ce que votre bébé bouge?
Bah, elle bouge. Elle bougeait c'est tous tout. Les jours. Voilà. Elle bougeait. Les échographies étaient normales. Donc, voilà. Ouais. Donc, non, franchement, une grossesse parfaite. J'avais pas envie d'accoucher, moi.
Ah ouais?
Non. J'étais... Bah, parce que je l'ai pas subi, cette grossesse. Tu vois, j'ai eu la chance de pas prendre beaucoup de poids. Et du coup, j'avais mon bébé partout avec moi, qui me donnait des petits coups. Je lui parlais. J'ai adoré ça. Enfin,
ouais.
Franchement, j'ai adoré. Puis bah après, il y a eu la naissance.
Ah. Au ton de voix, on sent que...
Ouais.
Compliqué.
Alors, la naissance s'est très bien passée. L'accouchement, ça a été top. J'ai accouché, ça ne parlera pas à tout le monde, mais du coup, à Jeanne de Flandre, qui a une super maternité à Lille.
C'est la deuxième maternité de France, voilà. Je crois avoir. Ouais. Des fois, c'est la première, des fois, c'est la troisième.
Ouais, voilà. Enfin, mais voilà, c'est quand même top. Ouais. Voilà. C'est vraiment top. Et puis, pour le coup, je suis ravie d'avoir accouché là-bas, compte tenu de la suite. Mais voilà, un accouchement qui s'est passé extrêmement bien, qui n'a pas été plus long que ça. Une équipe de sages-femmes top. Mais vraiment, on a accouché, Pierre et moi, j'ai envie de dire, dans la bonne humeur. Il y avait des blagues. C'était vraiment, vraiment chouette. Donc, vraiment, aucun problème. Oui, oui, vraiment. J'en ai un très, très bon souvenir. Et là-dessus, j'ai eu la chance de ne pas avoir d'épisode traumatisant. Mais le lendemain, alors j'ai accouché un samedi, donc le dimanche, on n'a pas vu de médecin, si ce n'est pour vérifier certaines choses, mais tout allait bien. Mais le lundi, en revanche, il y a la pédiatre qui est venue nous voir pour nous dire, bon, bah, on va faire des examens complémentaires parce que bah, quand on écoute le cœur de Maëlle, on trouve que ça fait un peu un bruit de locomotive. Donc, il faut juste vérifier. Elle dit, c'est probablement pas grand-chose. Ça arrive avec les nouveau-nés. Parfois, il y a un claque-pec qui se referme mal ou quelque chose comme ça. Donc, juste, vous allez rester un petit peu plus longtemps pour que le cardio puisse faire une échographie à Maëlle et qu'on voit un peu ce qui se passe. Donc, bon, déjà, voilà, la gorge se serre. On dit, bon, mais... Dit, bon, ils étaient, enfin, la pédiatre était extrêmement rassurante. Donc, en soi... On n'était pas ravis, mais on s'est dit, bon, voilà, ça, ouais. Ça va aller, quoi. Et puis, le mercredi matin, on va faire l'échographie. J'étais quand même pas très bien, j'avais un peu le cœur serré. Et puis, bon, bah là, du coup, le médecin nous annonce qu'il y a une malformation cardiaque, qu'il y a ce qu'on appelle une CIV, donc c'est une communication interventriculaire. Donc, il y avait un petit trou entre les deux ventricules de Maëlle, ce qui faisait que son cœur pompait peut-être un petit peu plus que la normale. Mais il nous a dit que, bon, c'était pas inquiétant.
Et c'est un truc qu'on pouvait pas voir, l'échographie?
Bah non, c'est ce qu'ils m'ont expliqué, okay. Parce que sur le coup, moi, j'avais quand même en tête les mots de la sage-femme qui avait fait l'échographie. Le cœur est parfait, le cerveau est parfait, tout va bien. Et puis bon, bah, mais en fait, non, parce que ça, bon, le trou était trop petit pour que ça puisse se voir.
D'accord.
Et pour que ça s'entende, il fallait que le cœur fonctionne pleinement, en fait. Donc que le bébé
soit sorti.
Voilà, c'est ça. Et donc, il nous a rassurés en nous disant que c'était un petit trou, que dans 70% des cas, ça se refermait tout seul au fur et à mesure. Donc, pas de souci, on contrôle. Donc, on devait aller, je pense, à l'hôpital, l'Institut cœur-poumon, tous les 3-4 jours, afin de vérifier que Maëlle grossissait et voir un peu comment évoluait la CIV. Et puis, donc moi, j'étais quand même... Bon, ça fout un coup quand même, hein, quand t'accouches d'une petite fille, là, un beau bébé tout brun, et tu dis, bon, que son cœur est bizarre. Donc, j'avais très peur quand elle pleurait, parce que ça se trouve, si elle crie trop fort, bah, ça va pas aller, elle va être mal. Donc, pas mal de stress, au final. Puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte, bon, elle avait pas tellement d'appétit. Le maïoticien qui me suivait à domicile m'a dit, oh, c'est tout, ça va aller, vous inquiétez pas, on va voir. Et puis, je trouvais qu'elle s'essoufflait quand même en prenant ses biberons au bout de 2 semaines, et puis bon, bah, comme on est dessus par le cardio, le lendemain, il s'avère que c'était une nouvelle échographie. Et puis bon, bah là, la CIV n'avait pas bougé, donc ni en bien ni en mal. De toute façon, ça ne s'agrandit pas. Hein. Mais elle n'avait pas diminué. Et en revanche, Maëlle n'avait pas du tout pris de poids.
Ah.
Voilà. Et donc là...
Ça, c'est quand même un signe.
Voilà.
C'est ce qu'on vérifie en premier chez les
voilà,
bébés.
C'est ça. Et là, elle n'avait pas grossi. Donc là, il a dit, bon, on va l'hospitaliser pour voir. Alors là... Bon. J'ai pris sur moi, je pense que j'ai pris sur moi comme jamais. Je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas fondre en larmes, parce que bah, son bébé de 2 semaines et demie, hospitalisé en cardio, c'est un peu difficile.
Ouais.
Et puis bah, tout a commencé, quoi. Voilà. On est resté 3 semaines et demie en cardio, une équipe top. Mais vraiment, je n'en ai pas un mauvais souvenir, parce que c'était top, on pouvait dormir avec elle. Donc une nuit sur deux, c'était Pierre et moi. On avait un lit, ce n'était pas un fauteuil, on avait un vrai lit. Et le personnel était extra. Et puis bon, bah, au bout de 3 semaines et demie... Bon, elle a une sonde nasogastrique, donc pour la gaver.
Okay.
Il n'y a pas d'autre terme, on la gavait parce que ses biberons, elle n'arrivait pas à les finir. Donc ben, on les mettait dans la machine pour que ça aille jusqu'à son estomac. Et malgré ça, ce n'était pas top. Donc on dit que elle faisait partie des 30% de cas pour lesquels la CIV ne pouvait pas se refermer seule et qu'il fallait l'opérer. Donc à l'âge de 2 mois, la veille de ces 2 mois, on était en région parisienne pour opérer mon bébé à cœur ouvert. Voilà. Donc encore un épisode difficile. Donc j'ai un début de vie de maman quand même dur.
Compliqué.
Ouais. L'opération s'est super bien passée. Maintenant, le cœur de Maëlle fonctionne vraiment normalement. Le petit patch qui a été collé fonctionne bien. Donc on s'était dit, une fois que c'était passé, que tout ça serait derrière nous. Bon, elle s'asseyait pas, elle évoluait pas comme une enfant normale, mais bon, après, on mettait ça quand même sur le compte du fait, elle a pas grandi normalement, elle a pris du poids un peu avec retard, elle a pas été éveillée comme elle aurait pu l'être, elle était à l'hôpital. Puis bon, elle a quand même vécu...
Puis la convalescence aussi.
Voilà, c'est ça, ouais. C'est quand même... C'est quand même une opération à cœur ouvert, c'est quand même pas rien, quoi. Ouais. Voilà. Et puis bon, au fur et à mesure, elle était suivie parce que son pied était mal mis dans mon ventre lorsque j'étais enceinte. Et donc, elle était suivie par des kinés, et puis... Novembre, décembre, elle n'est pas assise ni quoi que ce soit. Et
presque un an, quoi.
Ouais. Elle n'est pas assise, elle ne bougeait pas comme elle aurait dû faire. Hein. Et donc là, les kinés, qui étaient top, et je ne les remercierai jamais assez, m'ont dit, bon, faudrait peut-être voir, pour reprendre rendez-vous dans un CAMS. Pour,
c'est quoi hein?
Alors, c'est un centre d'action médico-sociale précoce. Et donc, en fait, c'est un peu les premières structures, si je puis dire, qui prennent en charge les enfants... porteur de handicap, en fait.
Ouais.
Et donc, ils m'ont dit, pour voir, pour qu'on puisse lui fabriquer ce qu'on appelle un siège coq, donc pour lui permettre, donc dans un fauteuil trip-trap, une chaise trip-trap, donc les chaises évolutives pour enfants, on met une coque qui est faite sur mesure pour maintenir l'enfant assis, voilà, pour qu'il puisse être assis et non pas debout, enfin, allongé à regarder le plafond. Et puis, là, ça a été la première fois que j'ai mis le pied dans le monde du handicap et... n'en est plus sortie.
Ouais.
Voilà.
Qu'est-ce qu'ils te disent alors à ce premier rendez-vous? Parce que, alors attends, les kinés te proposent une solution moteur. Est-ce qu'on va voir ailleurs, au niveau cérébral, si tout se passe, ce qui se passe en fait?
En fait, je pense que les kinés ont essayé d'être les moins brutales possibles, je ne sais pas si le terme est adapté, mais elles ont mis d'abord ça sur... voir d'abord le moteur, mais je pense qu'elle voyait elle-même que Maëlle n'était pas éveillée normalement, en fait. Moi, je ne m'en rendais pas bien compte parce que, pareil, premier enfant dans mon entourage. Bon. Puis, toujours cette opération qui faisait que je ne voyais pas encore sa différence. Et donc, non, en fait, c'est le CAMS. En fait, dans un CAMS, il y a plein de spécialistes. C'est-à-dire qu'il y a une pédiatre qui est souvent neuropédiatre. Il y a un médecin qui est plus spécialisé en rééducation. Plus un médecin de rééducation, il y a des kinés, il y a des ergothérapeutes, des psychothérapeutes, des orthophonistes et des psychologues. Donc c'est vraiment complet. Donc en fait, Maëlle, en entrant dans ce CAMS, dans un premier temps, on a juste vu une pédiatre qui était la neuropédiatre de ce centre. Et puis lorsqu'elle a vu Maëlle, elle a dit bon, ok, donc on va faire ça, ça, ça. Et puis bon, au fur et à mesure, la liste des spécialistes. En fait, Maëlle a eu le droit à tout. Psychologue, ergo, psychomote, orthophoniste. Voilà, elle a eu la totale. Et puis voilà. Ça a commencé comme ça. Et alors, pour Maëlle, il n'y a pas de diagnostic. Donc, en fait, il n'y a jamais eu cette... à chaque fois, on n'avait pas conscience de la gravité de la chose. Le mot handicap n'est pas entré dans le vocabulaire des médecins tout de suite. Donc, il n'y a jamais eu cette sentence qui est tombée d'un coup où votre enfant est handicapé et si et ça. Non, ça a été progressif parce qu'en fait, c'est au fur et à mesure de la croissance de Maëlle... et de l'âge qu'elle prenait, qu'on voyait qu'elle cochait pas telle case. Et au fur et à mesure, il y a des spécialistes qui sont entrés dans le monde de Maëlle et dans ma vie, et qui disaient, oui, effectivement, ça va pas. Mais aujourd'hui, on ne sait pas ce que Maëlle a. Donc, elle est suivie par un généticien de Lille, à l'hôpital Jeanne de Flandre. Elle est également suivie en génétique à Paris, à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Mais pour le moment, toutes les analyses génétiques qui ont été faites sur Maëlle n'ont apporté aucune réponse. Voilà. Donc, il faut le savoir, ça arrive souvent. On ne sait pas toujours pourquoi un enfant est handicapé. Alors, parce que ça peut être juste la faute de pas de chance. Je me souviendrai toujours de cette métaphore qu'avait fait le neurologue de Maëlle. C'est comme s'il y avait eu un bourrage papier dans la machine. Voilà. Donc, des fois, juste...
C'est juste quand les cellules se font...
C'est ça. Il y a quelque chose qui...
Un truc qui bug. Quoi.
Voilà, qui bug. Donc, soit c'est ça, soit c'est une maladie rare, donc une maladie génétique extrêmement rare, parce que la recherche avance énormément en génétique, mais il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à découvrir. Donc, peut-être qu'on saura dans 10 ans, dans 20 ans, ce que Maëlle a, ou jamais. Mais voilà, on ne sait pas ce qu'elle a, donc...
Comment tu le vis, toi, le fait de ne pas mettre un mot sur ce qu'elle a?
Alors, au début, c'était pas évident, mais on en a souvent parlé avec Pierre, son papa, et on s'est souvent dit qu'en fait... au début, j'avais l'espoir quand même d'avoir un deuxième enfant. J'avais l'envie d'avoir un deuxième enfant. Parce que je me suis jamais envisagée comme maman d'un enfant unique. Et puis bah, aussi de manière très égoïste, hein, je suis transparente jusqu'au bout, j'avais envie de connaître la vie d'une maman normale, les joies normales, la rentrée en maternelle, voir un match de foot, un combat de judo, collège, lycée, c'est ça, c'est la normalité de mes amis et de ma famille. Donc j'avais envie de ça, parce que c'est ce dont j'avais toujours rêvé. Et puis bon, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était trop lourd, enfin, j'en ai pas envie. Donc bon, peu importe, ça a été compliqué et on a voulu, absolument, on a tenu à ce que les études en génétique se poursuivent avec Maëlle pour pouvoir mettre éventuellement un nom sur ce handicap. Alors déjà pour nos frères, j'ai un frère et Pierre a également un frère, donc pour leurs enfants. Bon, ils ont tous les deux eu des enfants qui sont en parfaite santé et qui vont extrêmement bien, donc c'est top parce que ça peut être génétique et héréditaire. Et puis bah, pour savoir si jamais je tombais enceinte,
les chances que ça se
produise. Voilà, c'est ça. Donc c'était pour ça que c'était important. Mais aujourd'hui, maintenant que je sais que je ne souhaite pas avoir un deuxième enfant, on se dit que ça peut être bien pour, bah, si jamais c'est héréditaire, pour mon neveu et ma nièce de savoir, puisque bon, c'est quand même assez proche, le lien est proche. Mais on sait qu'aujourd'hui, mettre un nom sur la maladie de Maëlle, sur son handicap, ça ne changerait rien, puisque Maëlle est extrêmement bien prise en charge. Donc dans notre quotidien et dans son quotidien, ça ne changerait rien. Alors après, la seule peur... C'est une peur voilà, qui est affreuse et à laquelle je déteste penser, c'est d'apprendre que Maëlle a une maladie dégénérative, en fait.
D'accord.
Voilà. C'est plus ça, ou de savoir qu'il y a une espérance de vie très courte, ou qu'à un moment donné, les progrès vont s'arrêter, parce que pour l'instant, oui, elle est handicapée, elle a un énorme retard, mais elle est en progrès constant. Oui. Et c'est juste la crainte d'apprendre qu'un jour, bah, ça va s'arrêter, puis que ça va régresser, puis que ça va, ça va aller de pire en pire. Donc, okay. Voilà.
Qu'est-ce qui est mis en place avec ce centre
Le CAMS.
Le CAMS.
Alors, Maëlle était, donc, elle était en crèche. Hein. Elle a toujours okay. Elle était en crèche, Maëlle. Et donc, elle avait donc, des spécialistes. Donc, elle a trois séances de kiné par semaine. Et la chance que j'ai, bah, c'est que le CAMS auquel elle appartenait était dans la même ville que la crèche où elle était, puisqu'elle était en crèche sur mon lieu de travail. Et bah, j'ai toujours eu j'ai de la chance. En fait, Maëlle a toujours été toujours été entourée de femmes.
Ouais.
Les spécialistes étaient toujours des femmes et pour moi, c'est toutes des bonnes fées. Elles étaient incroyables et même si au fur et à mesure, elles ont changé, j'ai toujours gardé le lien avec elles parce qu'il y a un attachement très particulier. Puis Maëlle est une petite fille très attachante. Et donc, j'ai eu la chance que ces spécialistes se déplacent à la crèche. Donc, ça a permis d'alléger un peu mon emploi du temps parce que je n'ai jamais arrêté de travailler. J'ai réduit mon activité à 80% parce qu'à un moment donné, bah, y a quand même pas mal de rendez-vous. Donc, j'ai réduit mon activité à 80%, mais je n'ai jamais arrêté de travailler. J'espère n'avoir jamais arrêté de travailler. Et lorsque Maëlle a eu 3 ans, donc ça a été l'âge où il faut quitter la crèche, même si la crèche peut, par dérogation, accepter un enfant un peu plus longtemps, surtout lorsqu'il est en situation de handicap. Maëlle, maintenant, elle est dans un IME, donc c'est un institut médico-éducatif. Donc là, elle y est tous les jours de la semaine, mais elle rentre tous les soirs. Ce n'est pas un IME avec internat. Et c'est un centre où elle n'est qu'avec des enfants extraordinaires. Et pareil, où elle est extrêmement bien prise en charge. C'est que du personnel bienveillant. Et elle est hyper heureuse là-bas. Mais vraiment, vraiment.
Quelles ont été les démarches pour pouvoir intégrer cette IME? Parce que d'un point de vue extérieur, on entend beaucoup parler des difficultés pour les intégrer. On entend beaucoup d'attentes des parents qui sont dans des situations improbables où les enfants ne peuvent pas être pris en charge comme ils le devraient, avec des enfants qui se retrouvent dans un système scolaire classique qui n'est pas adapté à eux, qui cause énormément de douleurs pour eux. Pour les enfants aussi bien scolarisés sûr. Et pour les enseignants. On en entend parler, ça existe. Quelles ont été tes démarches? Quels ont été tes délais à toi?
Alors en fait, lorsqu'on a un enfant handicapé et qu'on souhaite qu'il intègre une structure spécialisée ou bien même pour que l'enfant soit reconnu comme handicapé, parce qu'on a cette chance en France d'avoir des aides financières, j'entends, on doit toujours passer par la MDPH. Donc la MDPH, c'est la Maison départementale des personnes handicapées. Et donc il faut faire un dossier qui est assez lourd. Parce qu'il y a beaucoup de pages à renseigner, il y a pas mal de justificatifs, donc c'est assez lourd. Mais je tiens quand même à préciser que ça s'est allégé depuis 2-3 ans. Donc ça, c'est très très chouette. Il y a des choses qui ont quand même pas mal avancé et c'est un soulagement pour nous parents. Les délais, alors déjà, lorsque on envoie le dossier à la MDPH, alors après chaque MDPH, les MDPH sont par...
Département ?
Ouais, par département. Elles sont départementales. Et en fonction des départements, il y a différents temps d'attente. Donc moi,
en région parisienne ou en...
Ouais, il y a des départements où c'est plus compliqué. Pareil, ouais. Voilà, c'est plus compliqué. Donc moi, comme je vis dans le Nord, dans le département du 59, le délai n'est que, je mets des guillemets, de 6 mois de traitement. Donc quand j'envoie mon dossier, je n'ai pas de réponse avant au moins 6 mois. Dans certaines MDPH, c'est parfois 1 an. Hein. Donc 6 mois, au début j'étais choquée, maintenant je le sais.
6 mois, voilà. ça paraît énorme en fait.
Mais bon, maintenant je suis rodée. Donc il faut faire ce dossier pour que ensuite la MDPH rende une décision sur l'aide qui nous sera octroyée. Donc c'est des aides qui sont versées par la CAF. Et également pour qui est ce qu'on appelle une orientation de l'enfant vers un institut spécialisé. Donc il y a différents instituts en fonction du handicap de l'enfant. Donc une fois qu'on a l'orientation, il faut que les parents prennent contact avec les instituts. Et là, on parle de 2 ans d'attente pour intégrer un institut. Là, Maëlle, je l'ai mise sur liste d'attente d'un autre institut. Il y a 4 ans de liste d'attente. Voilà, donc c'est énorme et c'est pour ça qu'il y a des parents et des enfants qui se retrouvent dans des situations très compliquées parce que il n'y a pas de place et qu'il y a beaucoup, beaucoup d'attentes. Et en plus, alors le Nord, on a cette chance dans le Nord de la France, on est hyper bien équipé. Il y a beaucoup de centres pour enfants handicapés et ce n'est pas le cas du tout de toutes les régions de France. Donc ici, il y a un peu moins d'attentes que dans d'autres. Et là, je ne parle que pour les enfants handicapés. Quand notre bébé devient un adulte, c'est encore un autre problème. Ouais.
Donc du coup, tu as commencé ces démarches à quel moment ?
Quand elle était à la crèche. Hein. Ouais. Elle était à la crèche. C'est le CAMS qui m'accompagnait et qui nous a expliqué. Bon, de toute façon, j'ai très vite compris que Maëlle ne pourrait jamais aller à l'école. Hein, et j'étais réaliste et je me suis jamais dit si je souhaite qu'elle soit scolarisée. Non, parce que j'étais réaliste sur les capacités de ma fille et puis elle serait malheureuse. Ouais. J'ai jamais envisagé qu'elle aille en maternelle. Elle serait malheureuse. Elle serait pas à sa place et non, c'était pas possible. Donc j'ai eu aucun problème à accepter le fait, même bon, c'est pas facile, hein, mais à accepter le fait qu'il fallait qu'elle aille dans une structure spécialisée et que c'était pour son bien et que c'était sa place et qu'elle y serait bien. Après, je dis ça, mais les visites des premiers instituts, je m'en souviendrai toute ma vie. Même quand on met déjà un pied au CAMS, on se prend déjà une première claque parce que ça fait bizarre. On sort du monde de la crèche tout beau, tout rose et on arrive dans une salle d'attente où il y a des bébés, des enfants qui sont un peu plus handicapés ou qui sont handicapés. Moi, quand j'ai fait mes premiers pas là-bas, j'avais pas encore ce terme en tête. Et donc, visiter un institut, c'est encore une autre épreuve. Mais bon, au fur et à mesure, il y a eu pas mal de
choses comme ça. Oui, parce que dans les instituts, il y a toutes sortes de pathologies, finalement.
Ouais. Et puis, c'est pas que des petits. Donc moi, Maëlle, quand on a visité les premiers instituts, elle avait pas 3 ans. Donc c'était vraiment un bébé. Et on a été dans un institut qui accueille beaucoup d'enfants handicapés, mais de 2 ans, voire 3 ans, jusqu'à 20 ans.
Ah oui, ça fait énorme...
Voilà, ils sont dans différents bâtiments. Enfin, il y a des groupes, des sous-groupes. Mais pour autant, quand on a visité, on a eu affaire à des appareillages. Donc, c'est des mots qui ne parleront pas beaucoup, mais des verticalisateurs. Donc, ce sont des appareils qui font pas mal du tout à l'enfant, mais qui permettent à l'enfant d'être debout, en fait. Donc, il est attaché, mais vraiment, ça semble barbare, mais ça ne fait pas mal aux enfants. Bon, la première fois que j'ai vu mon bébé dedans, ça m'a fait tout drôle. Mais bon, c'était un verticalisateur pour une enfant de 2 ans. Un verticalisateur pour un enfant de 20 ans, ça n'a pas la même taille. Donc, taille ça adulte, fait drôle. Quoi, ouais. Voilà, donc ça fait bizarre et c'est un peu violent. Mais donc c'est le CAMS qui nous a orientés. Et puis, bon, on a visité et puis voilà, on a fait nos dossiers MDPH et voilà.
Comment ça s'organise au quotidien, la vie avec Maëlle ?
C'est pas facile. C'est pas facile. En fait, ce qui est très, très lourd, c'est que depuis 6 ans, j'ai un bébé. Et c'est usant. Et c'est pour ça, je pense aussi, je n'ai pas l'envie d'avoir un deuxième enfant, parce que moi, j'ai pas oublié ce que c'était que je te changeais une couche.
Oui, parce que du coup, il n'y a pas ces notions de propreté.
Non, pas encore.
Elle mange pas seule.
Non, elle commence à prendre la cuillère, mais il faut que je la lui remplisse. Ouais. Mais elle mange pas seule. Le matin, c'est moi qui lui donne encore un biberon. Je la lave, enfin, en fait, je fais tout comme un bébé, en fait. Donc ça, c'est lourd, c'est fatigant. Et puis c'est un bébé qui fait 17 kilos. Encore, la mienne, c'est un poids plume, hein. Donc elle fait que 17 kilos. Donc ça, c'est difficile. Voilà, c'est le quotidien, c'est le quotidien d'une maman avec un enfant en très bas âge, mais qui ne comprend pas forcément ce qu'on lui demande. Ouais. Voilà, parce que même si on estime qu'elle a environ 18 mois, je pense qu'un enfant de 18 mois comprend plus de choses que Maëlle. Mais pour autant, ces derniers temps, depuis janvier, il y a eu un énorme déclic et elle fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès. Les spécialistes sont ravis et son papa et moi sommes très fiers d'elle. Mais voilà, c'est lourd, le quotidien est lourd. Et c'est surtout que c'est le cas de beaucoup d'enfants handicapés, ils ont besoin d'une vraie routine. Et si je déroge à cette routine, c'est la catastrophe. Ouais. C'est une grosse colère. Et du coup, j'ai assez peu de liberté dans mon quotidien avec Maëlle. Il faut que je respecte vraiment l'ordre des choses, c'est... Ça, c'est difficile. Il n'y a pas de place pour l'impro. Ou alors si, des fois, je joue avec le feu et je lui dis allez. Mais bon, en fait, je prends cher.
Ouais, c'est ça.
Et je suis usée. Ça me fatigue. Et puis, elle fait des colères parce que bah, elle s'exprime pas. Donc, je pense qu'il y a parfois aussi une frustration. Et elle l'exprime à sa façon. Donc, c'est... Tout est décuplé chez un enfant handicapé. Les émotions, les colères, c'est... tout est plus fort que chez un enfant dit normal.
Et est-ce que tu as du relais ? Est-ce que tu as de l'aide ?
Non.
Au quotidien ?
Non, parce que, bah, comme je le disais tout à l'heure, je suis toute seule dans la région. Donc, j'ai pas d'aide. Depuis quand même un an et demi, j'ai une babysitter.
Ouais.
J'ai sauté le pas et ça me fait du bien. Donc, la babysitter, faut savoir qu'un enfant, lorsqu'il est dans un institut, il est pris en charge le matin et le soir. Et ça, c'est encore très, très chouette. C'est une richesse par un taxi. Donc,
d'accord.
Tous les matins, j'ai un taxi qui vient chercher Maëlle et qui fait une sorte de ramassage scolaire, si je puis dire, qui a un circuit et qui prend 3-4 enfants, qui les emmène à l'institut et en fait, ensuite qui les ramène à la maison. Sauf que bon, bah, les horaires ne sont pas forcément compatibles à une vie active.
Ouais.
Il faut savoir que Maëlle, elle arrive à 16h50.
Ah oui.
Et bon, bah, moi, j'ai un travail, je suis assistante administrative dans une université, donc ce ne sont pas mes horaires. Non, non, tous les fonctionnaires ne finissent pas à 16h, j'arrête tout de suite les mauvaises langues. Non, non, non. Donc, c'était plus possible. Et donc là, j'ai une babysitter qui, le soir, récupère Maëlle devant chez moi et puis reste avec elle jusqu'à ce que moi, j'arrive. Donc ça, c'est chouette. Ça me permet de moins courir. Et puis, bah, du coup, si j'ai envie d'aller chez le coiffeur sans prendre une demi-journée de congé, je peux faire appel à la babysitter. Mais sinon, c'est tout. Voilà, j'ai pas, comme mes parents ne sont pas dans la région et que le papa de Maëlle est quand même très peu à Lille... Bah, du coup, je n'ai pas de relais. Alors, il y a des associations qui existent, mais je commence à me renseigner, mais je n'ai pas encore sauté le pas parce que ce n'est pas... Bon, c'est pas évident de laisser son enfant. C'est un bébé dans sa tête, donc elle ne parle pas. J'ai toujours peur qu'on lui fasse du mal, qu'on ne soit pas bienveillant avec elle. Et que... Je pense qu'elle saurait me le dire, mais voilà, je n'ai pas encore sauté le pas. Il existe des week-ends. Hein. On peut laisser les enfants, des vacances, mais elle est trop petite, je ne suis pas capable. C'est comme si on mettait son enfant de 18 mois en week-end avec des gens qu'il ne connaît pas ou qu'on l'envoyait en colonie de vacances. C'est pas possible. Non, pour moi, c'est pas possible.
Pourquoi tu restes à Lille ?
Je ne savais pas si tu me poserais la question.
Si, je te la pose.
On la pose souvent. Alors, parce que j'ai un travail que j'aime énormément ici, déjà. J'ai ma vie à moi. Donc, en fait, si je quittais Lille, ce serait pour rejoindre Pierre à Lorient. Mais Lorient, ce n'est pas Lille, hein. Je suis désolée s'il y a des Lorientais qui nous écoutent.
C'est moins actif peut-être.
C'est pas une grande ville comme Lille. Lille, c'est vraiment une grande ville. Moi, je suis une citadine. Hein. Je suis une vraie citadine. Alors, j'ai beaucoup de famille en Bretagne, hein, donc je me dis bretonne. Mais c'est pas Lille.
Tu fais partie de ces Bretons expatriés qui revendiquent à foison qu'ils sont bretons.
C'est ça. Mais moins que Pierre. Bon, maintenant, il vit en Bretagne, donc il a le droit de le dire. Mais ouais, j'ai un travail que j'aime énormément, qui me permet d'être épanouie et de ne pas être qu'une maman. Voilà, je suis Vanessa, je suis une femme, je suis une maman, une femme, une épouse, mais je suis une femme qui travaille et qui j'ai besoin de cette reconnaissance professionnelle. C'est ma soupape de décompression. Enfin, moi, quand je vais au travail, je suis ravie. Je connais pas le blues du dimanche soir.
Ouais.
Non, pas du tout. Parce que pour moi, je sais que c'est le cas pour beaucoup de mamans, hein, mais les week-ends sont parfois des longs, longs. Long tunnel, déjà le vendredi soir, parfois c'est déjà. Je me dis, c'est pas possible. Donc, moi, le dimanche soir, je suis super contente. Je sais que je vais au travail le lendemain parce que j'adore aller. J'ai cette chance hein, d'adorer aller au boulot. Puis, tous ceux qui m'entourent au travail sont extrêmement bienveillants. J'ai une chef extraordinaire pour ça et des collègues qui sont top. J'ai jamais aucune remarque sur mes absences par rapport au rendez-vous de mail. Donc, ça, c'est hyper précieux pour moi, d'une part. D'autre part, bon, Maëlle, elle est suivie par beaucoup de spécialistes ici. Alors, il y en a aussi à Lorient, mais il y en a beaucoup moins. Le Morbihan n'est pas équipé comme le Nord en termes de structure. Et puis, bah, Lorient, c'est pas Lille. Même on a le CHU de Lille, c'est quand même
c'est une
top.
Grosse machine.
Voilà, c'est ça. Donc, il y a tout ça. Et puis, bon, bah oui, ça fait 20 ans que je suis avec Pierre. Mais c'est pas un conte de fées. C'est pas du tout un conte de fées. Il y a 2 ans, Pierre a rompu. C'est lui, il assume. Pierre a rompu. Et on s'est retrouvés. On s'est retrouvés parce que voilà, c'est ça, c'est comme ça, c'est lui, c'est moi, c'est comme ça. C'est finalement une évidence, mais bon, c'est pas facile de grandir et de mûrir ensemble.
Non.
Et puis bah, Pierre, il a sa vie de skipper, donc c'était pas facile en fait de combiner nos deux vies, qui sont quand même très différentes. Et donc aujourd'hui, bah, même si on s'est retrouvés, Pierre et moi, je suis pas capable aujourd'hui de tout quitter pour le retrouver.
Ouais.
Et j'ai besoin de ressentir profondément le besoin et l'envie surtout, l'envie de quitter ma vie pour le rejoindre. Même si c'est sûr que le quotidien serait plus simple avec papa à la maison, c'est certain. Mais
ça serait aussi une organisation complètement différente. Parce que qu'on se le dise, hein, t'as beau être avec la personne pendant super longtemps, quand t'as tes habitudes de vie, l'intégrer comme ça dans une vie de famille, finalement, au quotidien, ça doit pas être évident, quoi.
Non, c'est ça. Mais après, Pierre, du coup, il vient pas souvent à Lille. Bon, il vient quand même, hein, mais bon, ça dépend de la saison. L'hiver, il est souvent là. On va dire qu'il est là tous les 15 jours. Ouais. Mais là, c'est la saison au printemps, c'est la reprise des courses. Ouais. Donc, il est plus sur l'eau qu'à Lille. Mais quand il vient, en fait, il y a un équilibre. Enfin, on a trouvé. Oui, en fait. Bah, j'ai toujours été habituée. Parce que Pierre, parce que même quand il n'était pas skipper, il faisait des interventions sur des événements sportifs. Il faisait la météo pour Wimbledon, pour Roland-Garros ou à New York. Enfin, donc. Ouais. Pierre, il a la bougeotte, c'est pas quelqu'un qui est la routine, il déteste ça. Donc, être tous les soirs à la maison, c'est trop compliqué pour lui. Et je pourrais plus non plus. Non. En fait, j'adore quand il est ici, quand il est chez moi, j'adore ça. Mais quand il repart, je retrouve tout. C'est-à-dire que ma maison est de nouveau bien rangée, il n'y a rien qui traîne. Je suis en pyjama à 18h, je mange à 18h30 et je regarde toutes les bêtises que je veux le soir. Et ça me va très bien. Et on a toujours beaucoup, beaucoup de plaisir et de joie à se retrouver. Du coup, on a des moments privilégiés parce qu'ils sont rares et ça me convient comme ça. Et puis, si j'étais à Lorient, il ne serait pas non plus beaucoup à la maison. Mais on s'est aussi tous les deux habitués finalement à avoir chacun notre chez-soi. Donc, ça se fera quand ça se fera.
Et dire que moi, je me bats pour avoir chacun sa chambre et toi, tu as la...
Chacun son appart et chacun sa déco. Hein, parce que du coup, je reçois Elise chez moi et elle peut constater que...
On a les mêmes goûts.
C'est girly. Ah, c'est cool. Il n'y a plus de bateau au mur. Ouais. Non, ça c'est chez lui et chez moi, c'est du rose.
Ouais. Et tu y vas aussi, toi ?
Non.
Non.
Non. Alors, je dois y aller, hein, mais du coup, c'est pas la porte à côté, déjà.
Avec Maëlle, c'est compliqué.
Maëlle, en voiture, c'est la cata. Elle n'a pas de patience. Maëlle ne regarde pas de dessins animés ou quoi que ce soit. Donc, pour l'occuper, c'est compliqué. Elle ne dort absolument pas en voiture. Donc, Lille-Lorient, c'est faut compter au moins 7-8 heures porte à porte avec les pauses.
Oui, parce
donc,
que t'imagines que c'est pas si loin à la Bretagne, mais en fait, c'est un peu
loin.
Main.
Oui, c'est
pas mal,
que Lorient, c'est pas Brest. Hein. Ouais. Donc, non, c'est pas à côté. Pierre, en plus, a un appart qui n'est pas adapté pour recevoir Maëlle. Il n'y a pas d'ascenseur. Donc, non. Et puis, Pierre adore venir à Lille parce que, l'air de rien, c'est un marin, mais c'est aussi un citadin. Et il adore la vie.
Il aime la bière, on le dit pas.
Oui, ça, c'est certain. Il n'y a aucun doute, il adore. Il prend aussi beaucoup de plaisir à revenir à Lille et pour qu'on profite tous les deux, on laisse toujours. C'est le principe. Quand il est à Lille, on laisse toujours au moins un soir Maëlle à la babysitter et on sort.
Ouais, c'est donc, chouette.
On essaie vraiment de respecter ça et ça fait beaucoup de bien. Et donc, c'est sûr qu'en termes de restaurants et de sorties à Lille, c'est un peu plus sympa qu'à Lorient.
Je ne connais pas Lorient, mais si tu le dis.
Écoute, moi non plus, mais personne m'en dit bien. Je suis désolée. Non, ça a l'air sympa, c'est joli, c'est le bord de la mer.
Oui.
Mais c'est pas Lille. Désolée. Ouais.
Non, mais moi je comprends, je suis une Illoise convaincue, tu sais.
Voilà.
Mais ok. Et comment t'envisages l'avenir ?
J'y pense pas et je veux pas y penser.
Ok.
Je crois que je veux pas y penser, si je suis tout à fait honnête. C'est un peu un jour à la fois. J'évite de me projeter parce que c'est trop douloureux par rapport à Maëlle de me projeter.
Ouais.
Parce que je ne sais pas comment elle va évoluer, comme il n'y a pas de diagnostic. Et puis, je sais qu'à un moment donné... Alors, ce n'est pas le cas pour tous les parents, mais je pense que si je suis réaliste, je ne sais pas si Maëlle, par exemple, sera propre un jour. Elle marchera peut-être, parce qu'elle fait vraiment des beaux progrès, mais elle ne marchera jamais comme un enfant normal. Elle n'aura jamais une démarche normale. Elle pourra peut-être marcher sur des petites distances, mais elle aura peut-être toujours besoin de son fauteuil roulant. Et au bout d'un moment, je ne pense pas qu'elle sera autonome comme les autres enfants. Et puis bon, je pense qu'elle aura toujours un très gros retard. Mais il y a un moment où, très probablement, Maëlle va aller en institut jour et nuit.
Ouais.
D'abord en semaine et probablement le week-end. Et ça me fait extrêmement mal de penser au jour où... Je sais que c'est pas vrai, mais c'est la façon dont je le ressens. Le jour où je ne serai plus maman. Dans le sens où j'aurai plus le soir... elle sera plus là, en fait.
Ouais.
Et ça, c'est super dur. Et je veux pas y penser. Oh, parce que... C'est très très dur pour moi parce que je me dis un jour à la fois parce que je peux pas, c'est trop douloureux, sinon j'arriverai plus à me lever si je pense à toutes les difficultés qui m'attendent. Bien parce sûr. Que faut être honnête, il y en a encore beaucoup. Maëlle, elle commence parfois à être difficile à gérer, elle a parfois des réactions qui sont un peu trop qui sont pas violentes, elle me tape pas, j'en suis pas là parce que ça arrive malheureusement, parce que les enfants, c'est pas méchant de la part des enfants handicapés, c'est juste qu'ils savent pas se contrôler. Mais parfois elle arrive tellement pas à gérer ses émotions qu'elle va me tirer les cheveux ou qu'elle va chercher à me griffer. Mais c'est pas méchant, c'est pas volontaire. Mais ça devient difficile à gérer et elle fait que 17 kilos. Donc quand elle en fera 30 ou 40, je vais faire comment? Donc voilà, j'essaye de pas y penser parce que c'est trop dur. C'est trop dur et je sais que ça va être... Le fait est que plus elle grandit, plus c'est difficile. Voilà. Et voilà, je veux pas y penser.
Ok. Il y a une question qui me taraude et tu me dis si tu veux y répondre ou pas.
Je t'écoute.
Le deuil de la maternité.
Ouais, c'est dur.
Parce que tout à l'heure, tu disais que tu avais toujours rêvé d'avoir une fratrie, d'être maman.
Ouais.
Tu m'as dit aussi précédemment que c'était pas la maternité que tu avais imaginée.
Non.
Comment tu le vis, en fait, tout ça?
C'est dur. C'est hyper dur. Je l'ai pas fait, le deuil, et je pense que je le ferai jamais. Donc, je suis entourée par les spécialistes de Maël. Donc, à l'Institut, par exemple, il y a une psychologue donc, qui est là pour les enfants, mais qui est aussi là pour les parents. Et elle m'aide pas mal, mais le fait est que c'est hyper douloureux de... J'ai toujours voulu avoir une petite fille. Ouais. J'ai toujours rêvé de ça parce que je suis coquette, tout ça. Et j'ai toujours voulu avoir une petite princesse. Et j'ai cette chance, malgré tout. Elle n'est pas comme les autres, mais j'ai un kiff. C'est de l'habiller et de la coiffer. Elle a des cheveux magnifiques. Et j'avoue que je ne compte pas quand il s'agit de l'habiller. Voilà. C'est mon bonheur. C'est la seule chose normale que je peux faire, donc je le fais. Mais en revanche, c'est super dur. Et je suis, par exemple, j'ai une nièce qui est une vraie princesse. Et j'adore, mais... C'est vrai que c'est parfois hyper douloureux. Enfin, j'adore entendre toutes les paroles totalement innocentes qu'un enfant peut sortir et qui sont tellement drôles, en fait. Et même mes amis me disent « Ah, il m'a dit ci, il m'a dit ça » et je trouve ça génial. Mais je vais être honnête, j'ai quand même de la jalousie et ça me brise le cœur à chaque fois parce que je sais que ma fille ne dira jamais ce genre de choses. Et ça, c'est hyper difficile, ça fait vraiment, vraiment mal. Donc, je me suis longtemps posé la question « Pourquoi ?» Mais pourquoi ça m'est arrivé? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive? Bon, j'ai arrêté de me la poser parce que de toute façon, il n'y a pas de réponse et puis il n'y a pas de raison, en fait, non. C'est comme ça, c'est juste la vie, c'est la vie, c'est comme ça. J'étais faite pour ne pas avoir une vie comme les autres,
ouais.
Mais c'est vraiment douloureux. Et si je me projette un peu, c'est douloureux parce que je ne serai jamais mamie, je ne marierai jamais ma fille. Enfin, ma mère, elle a adoré venir avec moi faire les essayages de robes de mariée. Et je sais que moi, je ne vivrai jamais ça, je ne vivrai jamais un premier amour, un premier chagrin d'amour, une virée shopping... Et ça fait mal, ça fait super mal. Et je pense qu'on ne peut jamais faire le deuil de ça. Enfin, moi, personnellement, je ne ferai jamais le deuil de ça. Je pourrais avoir un deuxième enfant. Hein. J'ai que 36 ans, hein, mais je ne m'en sens pas capable. Enfin, avoir Maëlle, c'est tellement usant déjà. Je ne vois pas comment je pourrais consacrer de l'énergie à un autre enfant.
Il faudrait qu'il soit grand, tu vois.
Ouais, mais là, il y en a. Hein. Enfin, Maëlle, dans son groupe, dans son institut, c'est la seule à ne pas avoir de frères et sœurs. Il y en a qui sont, c'est un deuxième enfant, bon voilà, c'est comme ça. Il y en a d'autres, ce sont des aînés, et je me dis toujours, j'admire les parents qui se sont lancés après le handicap, parce que moi, j'en suis incapable.
C'est peut-être des parents qui ne sont pas seuls à la maison aussi.
C'est ce qu'on m'a souvent dit. C'est vrai que moi, j'ai toujours géré ma elle seule. Donc c'est vrai que moi, j'ai une vision des choses vraiment déformée, parce que je n'ai jamais eu papa 7 jours sur 7, et
même la famille,
longtemps.
Ou même, tu vois, enfin,
j'ai pas papy, mamie qui
prennent... C'est pas forcément une vie de couple, hein, parce que j'imagine, et on peut en parler aussi, même si t'as une vie de couple, on va dire, atypique,
ce
que le handicap de l'enfant, déjà, ce que l'arrivée d'un enfant, de toute manière, a une incidence sur le couple, hein, ça c'est certain.
Oui, c'est certain.
Mais quand il y a la maladie, quand il y a le handicap, ça doit être aussi autre chose.
Alors nous, ça a pas perturbé le couple. Ouais. Il a fallu qu'on trouve, comme tout le monde, qu'on se retrouve après l'arrivée d'une troisième personne dans ce couple. Mais en revanche, le handicap nous a jamais, sincèrement, parce que non, je pense pouvoir être tout à fait honnête. Le handicap, on a cette chance, ne nous a pas séparés. C'est pas le cas de tout le monde parce que j'ai le témoignage de pas mal de mamans où. C'est souvent le papa qui est parti, hein, sans vouloir... Mais c'est souvent le cas, malheureusement. Mais non, nous, avec Pierre, ça n'a pas été un problème. Pas du tout.
Mais après, tu vois, c'est pareil. Enfin, c'est une question, je pense, de configuration.
Oui, tout à fait.
Où c'est vrai que quand tu es dans un couple où on vit ensemble au quotidien, tu as aussi ce côté de dépendance. Hein, je veux dire, la charge mentale... Toi, tu as celle de ta fille.
Ouais.
Tu n'as pas celle de ton mec.
Non. Non, c'est sûr. Ah, quoique.
Ah, peut-être un petit peu.
Quand même.
Pas tous les jours.
C'est ça, c'est différent. C'est différent, mais je le soutiens
mais
beaucoup dans ces projets.
Mais tu vois,
t'as
plein de dépendances comme ça, ou dans les couples hétérosexuels, en tout cas, où les gens vivent ensemble. On va pas se le cacher, on va être complètement honnête. Hein. Les hommes comptent énormément sur leurs femmes.
Oui, je pense.
Comme si elles étaient leur mère parfois. Et de devoir céder cette place-là, c'est difficile pour les hommes.
Ouais.
Donc, je pense qu'il y a un peu de ça. Alors, voilà, c'est toujours de la généralité, c'est toujours peut-être un peu de la psychologie de comptoir.
Malgré tout,
ça reste une réalité quand même. Et de se dire, selon la configuration, peut-être que votre configuration vous a donné la force, justement, de pouvoir rebondir, de pouvoir être... Enfin, vous avez une différence déjà de base de toute façon.
Oui, on est très différents, Pierre et moi. Enfin, c'est vrai qu'on se demande. Parfois, je me demande, je sais pas, ça va faire 20 ans, c'est quand même impressionnant parce qu'on est vraiment très, très différents.
Mais vous
vraiment...
avez toujours accepté la différence de l'autre.
Oui, finalement.
Vous n'avez pas essayé de changer l'autre.
Non. Ouais, quoi, peut-être au début, mais j'ai vite renoncé. Je me dis, bon, c'est fichu, de toute façon, il ne changera jamais. Et puis non, puis, bah, je l'aime aussi parce qu'il n'est pas comme les autres.
Hein. Voilà.
Je suis super fière de lui. Et puis j'adore dire, oui, mon mari est skipper.
C'est vrai que c'est un peu classe.
C'est classe, non?
Ah, ouais. Tu peux le mettre sur Instagram, c'est genre sous ton pseudo.
C'est ça. Femme de skipper, ouais. C'est pas mal.
Non, mais c'est vrai. C'est quand même un peu comme femme de footballeur.
Oui, bah, non, bah, c'est un peu ça. C'est bon, ça rapporte moins. Hein. Ça ne rapporte pas du tout la course au large.
Merde, il aurait pu choisir autre chose.
Ouais, non, c'est pas le sport. Non, pas du tout. Lui, quand il gagne une course, il gagne un panier repas, quoi.
Voilà. Oh,
alors, il a beaucoup de rillettes de poisson, hein. Il en a beaucoup. Mais bon. Non, mais bon, il est... Ouais. J'aime le fait qu'il ne soit pas comme les autres et je suis super fière de lui. Et je le soutiens.
Mmh. Voilà.
Même si ça complique les choses, comme je l'ai déjà dit. Mais je le soutiens à fond. Mais c'est sûr que j'ai une vision déformée des choses parce que finalement, j'ai un peu toujours été dans l'organisation maman solo. J'ai toujours tout organisé par rapport à Maëlle, aux horaires de la crèche et tout. Comme si Pierre n'était pas là, parce que le fait est que quand il vivait encore à Lille complètement, c'était compliqué. Il passait quand même déjà beaucoup de temps à Lorient, mais il n'avait pas un appart, il dormait dans son camion et dans son van. Mais quand Pierre, il part en course, il part super longtemps. Enfin, une transatlantique, donc ça commence en septembre et il revient vraiment en décembre.
Ouais.
Parce que bah, y a des étapes, il y a plein de choses, il y a des remises de prix, donc c'est... J'ai toujours organisé les choses différemment. Et c'est pour ça que quand il y a eu cette rupture entre Pierre et moi, bah, ça m'a fait souffrir. Voilà, je perdais mon grand amour, c'était terrible. Mais en revanche, pour ma vie de maman, ça n'a absolument rien changé. J'étais habituée à fonctionner toute seule. Ouais. Donc oui, c'est sûr que le fait d'avoir un second enfant, en sachant que j'ai toujours géré Maëlle toute seule, je ne m'en sens pas capable. Et après, très égoïstement, je vais le dire, mais vraiment très égoïstement, je me dis que c'est déjà pas facile pour moi de faire garder Maëlle. Parce que bah, bon, mes parents travaillent encore, ma belle-mère est retraitée, elle a plein d'activités, mais Maëlle, elle n'est pas facile à gérer seule. Donc ma belle-mère ne peut pas prendre en charge Maëlle toute seule.
Quand tu es plus âgée, c'est plus compliqué.
Bah voilà, elle demande quand même beaucoup d'attention, et puis bah, elle fait son poids, la demoiselle. Donc, même si j'ai la chance d'avoir Maëlle a des grands-parents qui sont extraordinaires, je ne peux pas laisser Maëlle si facilement que ça. Et quand je peux la laisser, je suis désolée de dire ça, mais vraiment, parce que ça va peut-être choquer, mais je n'ai pas envie d'être encombrée d'un autre enfant. Voilà, parce que j'ai ce besoin de privilégier mon couple. J'ai envie de faire plein de choses avec Pierre. On ne peut pas voyager avec Maëlle, ce n'est pas possible. Un trajet en avion, c'est l'enfer. Un décalage horaire, Maëlle, elle a le rythme d'un bébé, elle fait encore des siestes. Il faut qu'elle mange à heure fixe. Enfin, c'est compliqué. Moi, je ne lui donne pas un pain au chocolat dans la rue, Maëlle ne mange pas ce genre de choses. Donc, j'ai vraiment, vraiment les contraintes d'un enfant en bas âge. Et je me dis que si on arrive à faire garder Maëlle, bah, j'ai besoin de vrai, vrai, vrai répit et de partir avec mon mec, en fait.
Ouais.
Et je n'ai pas envie de devoir gérer parce que mes parents, s'ils gardent Maëlle, ils ne sont pas capables de garder un autre enfant à côté parce que c'est trop de boulot, en fait. Donc, rien que ça, bah, j'ai aussi fait une croix sur le fait d'être maman une deuxième fois parce que bah, j'ai envie d'être un peu égoïste et de kiffer. Peut-être que je le regretterai hein, dans 10 ans, je ne sais pas. Hein. Mais aujourd'hui...
Je ne sais pas, mais tu sais, je pense que ça... dans ce cas-là, moi aussi, je suis égoïste, tu vois.
Ouais.
C'est toujours pareil, hein. C'est des choix de vie. Hein.
Oui, c'est ça. Et là, aujourd'hui... Bah, j'ai un quotidien qui n'est pas facile en tant que maman et bah, quand je peux avoir du répit, bah, j'ai envie d'avoir un vrai répit et de juste être une femme et une épouse. Voilà, j'ai juste envie de ça. J'ai ce besoin vraiment de me retrouver avec mon chéri et de partir et de complètement déconnecter de ma vie de maman. Et quand on est maman, on le sait toutes, hein, c'est pas évident. Et de pouvoir passer un week-end sans regarder sa montre, sans gérer le changement d'une couche ou quoi que ce soit, mais c'est un vrai bonheur, quoi. Donc voilà.
Moi, j'ai une dernière question à te poser. Tu me dis si tu veux y répondre ou pas. Tout à l'heure, tu m'as dit, quand tu as eu Maëlle,
ouais.
T'as pas eu le choix. C'est-à-dire que ça n'a pas été diagnostiqué en anténatale, ça n'a pas été diagnostiqué pendant la grossesse. Si tu avais eu le choix...
Je ne l'aurais pas gardé. C'était ça la question.
Oui, c'était ça la question.
J'ai aucun problème à le dire. Si j'avais su que Maëlle était handicapée, ça m'aurait fendu le cœur. Hein. J'en aurais été malade, mais je ne l'aurais pas gardé.
Et toujours faire la part des choses. Hein. Pas garder un bébé, c'est... C'est pas l'enfant qu'il est aujourd'hui,
non,
tu vois.
Non, mais c'est vrai que c'est pas facile
c'est
aujourd'hui.
C'est difficile, hein, tu vois, de se dire ça, mais
quand on la
c'est
connaît.
Pas l'enfant qui a un prénom, c'est pas l'enfant qui a cette personnalité, tout cet amour, ça n'a rien à voir.
Ouais. Mais bon, je vais probablement choquer des gens, parce que bah, c'est très personnel et ça me regarde moi. Hein. Mais si je l'avais su, si j'avais su que cet enfant que je portais était porteur de handicap, je ne l'aurais pas gardé, parce que c'est pas la vie que je voulais. C'est pas la vie que je voulais. Et je suis complètement transparente là-dessus. Donc, des fois, je me dis... ça peut paraître affreux, mais des fois, quand j'en peux plus, je me dis que j'aurais préféré savoir. Et puis d'autres fois, non, pas du tout. Parce que bah, Maëlle, c'est un rayon de soleil, et puis Maëlle, c'est Maëlle, et maintenant, bah, c'est, voilà, c'est le deuxième amour de ma vie, c'est ma croquette. Je ne sais pas si on aime comme ça, c'est croquette. Voilà, je suis très partagée, mais ça fait longtemps que je ne me suis pas dit que j'aurais préféré savoir, même si j'ai eu ces 6 derniers mois, ça a été extrêmement difficile, j'ai complètement craqué, j'ai vraiment craqué fort. Hein. J'ai été arrêtée une semaine, je n'en pouvais plus, j'en pouvais plus. J'ai toujours pris sur moi, tenu, et puis bah, à un moment donné, je me suis effondrée, parce que j'avançais tête baissée. Parce qu'il n'y a pas le choix, parce qu'il faut faire les choses. Et j'ai craqué. Et c'est pas grave, on a le droit.
Ouais. Voilà. On a le droit, non mais c'est on ça. A surtout beaucoup, beaucoup le droit. Et,
ouais.
Et
c'est pas honteux.
Non, puis attends, t'es dans une configuration où, encore une fois, t'as pas de relais. Quoi. Déjà, c'est difficile dans une situation classique de pas avoir de relais. Mais alors, dans la tienne, ça doit être encore autre chose. Et enfin, t'es pas obligée de... On n'est pas obligé de souffrir, on n'est pas venu ici pour souffrir.
Non, ouais, hein? C'est sûr, mais bon. Il y a des situations qui font que, malgré tout...
Oui, tu souffres.
Ouais, je vais pas dire le contraire.
Bien sûr.
Oui, je souffre et c'est aussi pour ça, tu vois. Enfin, donc si j'avais su que Maëlle était handicapée, que ce bébé était handicapé, je l'aurais pas gardé. Et si jamais on découvre ce que Maëlle a et que d'un coup il me prend l'envie d'avoir un deuxième enfant et que par malchance cet enfant soit porteur du même handicap que sa sœur, que Maëlle, je peux pas me gérer deux enfants handicapés. Il y en a qui le font, mais je les admire. Mais moi je peux pas, je refuse, c'est impossible. Je suis pas une martyre. C'est horrible ce que je dis, mais c'est vrai. Mais prendre la décision de mettre un terme à la grossesse alors que Maëlle est viable et que son frère ou sa sœur serait également viable, ce serait extrêmement dur. Et je refuse d'être confrontée à ce choix. Parce qu'en plus, le temps qu'on fasse tous les tests et tout, ça veut dire qu'on le saurait au moment d'une grossesse, déjà avancée, si je puis dire, au moins 4 voire 5 mois. Parce que c'est long, ce genre de test quand même. Hein. Donc, puis il y en a qu'on ne peut pas faire avant telle ou telle semaine. Et donc, ça veut dire pas seulement c'est un avortement, mais
c'est un
probable avec accouchement. Voilà.
C'est un accouchement.
Et je ne veux pas. Voilà, je veux pas, j'ai des amis qui me sont extrêmement proches, qui ont vécu ce genre de situation et je veux pas le vivre. Je les ai accompagnés là-dedans, ça a été extrêmement difficile. Et je veux pas vivre ça et parce que on se l'est dit avec Pierre, je pense que j'arriverai jamais, jamais à me pardonner de mettre un terme à une grossesse pour un enfant qui serait comme Maëlle, parce que Maëlle, elle mérite de vivre et Maëlle, oui, elle est handicapée, oui, elle est très en retard, mais il y a un vrai, vrai relationnel avec elle.
Ouais.
Elle reconnaît les gens, on s'attache énormément à elle. Elle vit, Maëlle. Elle est présente. Elle est dans son monde, mais à sa façon. Mais elle est vivante, cette petite fille. Et je veux pas... J'y arrive pas. Ce serait trop, trop dur.
C'est pour ça qu'il faut bien faire la part des choses entre Maëlle et le fait que toi, à l'époque, il y a 7 ans, décision que tu aurais pu prendre.
Mais je l'aurais prise. Et moi, je blâmerai jamais, je jugerai jamais une femme qui met un terme à sa grossesse parce que l'enfant est handicapé. Enfin, c'est... Faut l'assumer après, hein. C'est une autre vie quand même, hein. Et c'est pour toujours. Alors quand on a un enfant, c'est pour toujours. Mais un enfant handicapé,
c'est pas la même.
Il prendra, il prendra jamais son indépendance, son autonomie. Enfin, c'est. Et puis bon, au-delà de ça, un autre sujet qui est extrêmement délicat pour moi, c'est le jour où Pierre et moi on sera plus là, parce que normalement nos enfants nous survivent. Qui est-ce qui va s'occuper d'elle? Enfin, moi c'est un sujet pareil. Ça fait partie des sujets auxquels je refuse de penser parce que c'est douloureux à un point, mais à un point. Donc voilà, c'est pas la vie que je voulais.
Est-ce que tu sais si sa malformation cardiaque est liée avec ce qu'elle a aujourd'hui?
Alors les médecins se sont pas mal interrogés, s'interrogent toujours là-dessus, parce qu'en fait donc Maëlle a une malformation cardiaque, mais elle a également une malformation à l'oreille gauche. Donc elle est sourde de l'oreille gauche,
d'accord,
mais l'oreille droite entend très bien, donc ça compense, donc elle n'est pas considérée comme malentendante, il n'y a aucun souci. Mais pour eux, c'est pas un hasard, parce que c'est à gauche
ouais.
Et ce sont apparemment, si je dis pas de bêtises, deux organes qui se développent au même moment lors de la grossesse. Donc, bon, pour eux, ce serait quand même corrélé. Donc, ils cherchent. Ils ont essayé pas mal de... Alors, faut savoir que il y a une étude génétique, parce qu'on parlait des délais de la MDPH tout à l'heure. Mais quand on fait un test génétique, c'est un an pour avoir un résultat. Donc, c'est hyper long. Donc, au fur et à mesure, bah, les médecins, puis Maëlle a évolué, donc c'est compliqué. Voilà, à chaque fois, il faut ajouter tel symptôme, si je puis dire, ou tel comportement, tel retard, si et ça. Aujourd'hui, les médecins pensent qu'il n'y a pas de hasard. Ils se disent qu'il y a quelque chose. Ils ne savent pas quoi, mais ils pensent que oui, sa malformation cardiaque est probablement liée à son handicap.
Ouais.
Mais peut-être pas, mais a priori quand même,
oui, parce
c'est pas anodin.
Oui, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui naissent avec des malformations cardiaques qui vont bien par ailleurs.
Tout à fait, ouais. Mais là, non, ils pensent quand même qu'il y a quelque chose, mais pour le moment, on ne sait pas. On attend.
Ok. Est-ce que tu as des choses à ajouter, Vanessa?
J'espère que mon témoignage aura pu faire du bien, que ce soit à des parents d'enfants handicapés, que ça aura pu les déculpabiliser sur certains sentiments qu'ils ont, sur parfois le ras-le-bol, le deuil, voilà, le fait de se dire parfois j'aurais préféré savoir. Voilà, j'espère que ça aura fait du bien. J'espère également que ça aura pu parler aux parents d'enfants dits normaux. Je sais que ce n'est pas un terme qui est adapté, mais voilà, pour les enfants qui n'ont pas de handicap, on va dire. J'espère que ça leur aura parlé et que quand ils croiseront une personne handicapée ou un enfant en situation de handicap, qu'il y aura de la bienveillance. Parce qu'il y en a, mais parfois pas toujours. Il y a parfois des regards qui sont lourds et qui sont difficiles. Et il faut penser que derrière, il y a un parent, il y a un enfant. Et voilà, j'espère que ça aura pu aider. Parce que bon, ça fait partie de la vie. Et on a l'impression parfois que les handicapés... Avant Maëlle, je n'avais jamais vu un enfant en fauteuil roulant, moi.
Ouais.
Je me disais, mais j'ai l'impression que des fois, on les cache. Quand je vois tous les enfants handicapés qu'il y a, on en croise tellement peu dans la rue. Donc je comprends que ça surprenne, mais voilà, ils font partie de notre quotidien et ils sont extraordinaires.
Ouais. Est-ce que tu acceptes de recevoir des messages ou est-ce que tu veux que je fasse le tampon bouclier ?
Non, avec plaisir, il n'y a pas de souci. S'il y a des gens qui souhaitent poser des questions ou quoi que ce soit, avec plaisir.
Ok, je mettrai tes coordonnées, ton compte Instagram, pourquoi
c'est gentil,
pas
de souci.
Dans les notes et tu seras taguée sur les réseaux sociaux,
ah,
attention.
Je vais devenir une star.
Le star system est devant toi.
Je vais devenir influenceuse, il vient de ça.
Alors,
non.
On n'ira pas jusque-là. Ah, après, tu fais ce que tu veux. Enfin, tu peux développer la chose et en faire ce que tu veux. C'est, voilà. Mais,
mais avec plaisir.
On n'est si pas là, tu vois.
Non, mais il ne faut pas hésiter. Voilà, s'il y a des gens qui ont envie de parler, avec plaisir.
Ça marche. Merci beaucoup, Vanessa.
Merci à toi, Élise.
Pour ta franchise, pour tes mots, les mots que tu as employés.
Merci.
Et pour ton honnêteté et puis pour m'avoir envoyé ces messages.
Merci à toi de m'avoir reçu et de m'avoir laissé m'exprimer. C'était important et vraiment, merci, Élise.
À bientôt.
À bientôt.
Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que cet épisode t'a plu et j'en suis très contente. Si c'est le cas, file vite sur Apple Podcast pour mettre 5 étoiles et dire pourquoi tu écoutes Prenons un café. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites. Tu vas en mettre 5, bien sûr. Et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 21 février 2022, Fanny Trossa écrivait, je cite, « Un podcast bien mené, intelligent et toujours sympathique à écouter, pour une parentalité décomplexée. » Émoji clin d'œil. Je te remercie Fanny et je t'envoie un gros émoji cœur. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un café autour de toi, ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café.
One-800-Flowers.com is more than your birthday, anniversary, or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers, everything from 1-800-Flowers is made with love every step of the way because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.